Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis aujourd'hui avec une scénariste de bande dessinée, Marie Bardiot-Vaillante, qui vient de sortir un album absolument majeur en ce début d'année, majeur pour l'actualité, majeur pour l'histoire et majeur pour tous ceux qui doivent le lire, hommes et femmes évidemment. Le titre, c'est Bobigny 1972, publié par les éditions Glénat. Mais avant de parler de l'album, je vais parler un peu de vous en vous posant ma question traditionnelle. Marie, qui êtes-vous ?
Alors déjà, bonjour Stéphane et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci pour l'invitation. Donc, je suis scénariste de bande dessinée depuis presque 15 ans maintenant et je suis historienne. J'ai fait un doctorat d'histoire sur, je cite, hein, l'histoire de l'abolition de la peine de mort dans l'Union européenne. Et je ne m'intéresse qu'à un seul sujet, c'est la justice. Et comme il est très difficile de définir la justice, je me pose, je dirais, la question en négatif à chaque nouvelle bande dessinée, enfin à chaque nouveau projet. Qu'est-ce qui est injuste pour moi ? Voilà, c'est comme ça que je fonctionne.
Je ne l'aurais pas mieux dit, en fait. Voilà, c'est une clé très intéressante pour comprendre votre travail, et y compris des albums publiés il n'y a pas très très longtemps, mais quelques années, notamment sur le procès de Eichmann à Jérusalem.
Oui, tout à fait.
Voilà, en parler sur justice, vengeance, injustice. Voilà, c'est des débats passionnants que vous arrivez à mettre en bande dessinée, et c'est quand même un exploit. Donc, parler Bobigny 72, donc c'est un album qui vient de sortir. Beaucoup de gens, moi je commence à être un vieux monsieur, donc c'est quelque chose dont je me rappelle un petit peu. Ma mère m'en avait parlé à l'époque, j'étais un petit garçon de 6 ans. Mais beaucoup de gens, ça peut dire quelque chose à beaucoup de gens, Bobigny 72, le procès de cette femme défendue par Gisèle Halimi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots cette histoire, comment elle commence ?
Donc, Marie-Claire Chevalier est une jeune fille de 15 ans qui est violée, qui tombe enceinte suite à ce viol, et qui refuse de poursuivre sa grossesse. Donc, elle finit par avouer tout ça, hein, à la fois la grossesse et le viol à sa mère, donc Michel Chevalier. Et sa mère, après un premier mouvement, on va dire, de stupéfaction, de sidération, enfin bon, de tout ça, évidemment, par rapport à son enfant. Et puis aussi la question qu'elle lui pose, si tu veux, je vais t'aider à l'élever. Sa fille lui disant, non, il en est hors de question, voilà, je ne veux pas. Et bien, elle décide de l'accompagner de toutes ses forces, en fait, vis-à-vis de cet avortement clandestin, puisque en 1971-72, évidemment, la loi Veil n'était pas passée et il était absolument interdit de pratiquer un avortement, de le faire pratiquer. Enfin, voilà, tout ça est tombé sous le coup de la loi. Il s'agissait de délits importants, hein, encore passibles de peine de prison, et à tout le moins de très fortes amendes. Et comme ça touchait des femmes issues des classes prolétariennes, hein, parce que les femmes plus riches allaient se faire avorter à l'étranger ou on payait des médecins, enfin bon, tout ça n'était pas un sujet. Voilà, et elle est dénoncée en fait par son violeur, hein. Donc là on touche quand même le fond du sordide, je dirais, et elle est mise en accusation et Gisèle Halimi décide en fait de les défendre, parce qu'il y a eu deux procès de Bobigny que j'ai fusionné en un seul pour la simplification de la narration, parce que sinon ça allait être ingérable. Enfin, on fait de la bande dessinée. Moi, j'ai envie que mes récits soient dynamiques et de ne pas endormir et ennuyer les gens. Donc, je prends des libertés avec l'histoire, mais pour moi, je les argumente sans aucun problème. Et là, notamment, je voulais que toutes ces femmes soient ensemble au sein de la cour, au sein du tribunal, puisqu'effectivement, dans la réalité des faits, le procès de Marie-Claire, qui était mineure en 72, était à huis clos, et celle des femmes adultes en public. Donc là, voilà, j'ai un rappel un petit peu des deux, mais on les voit toutes ensemble, et ça, c'est important.
Donc, votre histoire commence et on est très, très vite complètement bouleversé. Parce que bon, il y a le début où le violeur, le garçon va dénoncer donc la femme qu'il a violée au policier. Mais juste après, on est confronté immédiatement à cette violence absolument insoutenable de la société et de la police. C'est-à-dire que la police va investir l'appartement de la jeune femme et de sa famille et les traiter comme des criminels. Ils vont les embarquer, en fait. Ça, c'est une chose qu'on a oubliée, c'est une chose dont on n'a absolument plus conscience, que le fait d'avorter pouvait conduire comme ça à se faire envahir par la police et mettre son appartement comme si on avait commis un crime.
Mais parce que c'était un délit grave. Tout simplement, la justice, la justice, elle n'existe pas. Les tribunaux et les procès servent à... Disons que chacune des parties dit sa vérité et il y a donc des juges. Si c'est aux assises, il y aura en plus un jury populaire. Mais là, c'était de la correctionnelle. Donc, il y a des juges qui prennent une position, une décision par rapport à un code pénal et sur lequel ils peuvent... Il y a des ambiguïtés, donc on peut trouver des biais, on peut trouver des chemins, mais cette idée de dire que la justice de tout temps serait, et partout serait la même, on voit bien, alors excusez-moi, je vais revenir sur un autre sujet, on voit bien qu'il y a des pays, des démocraties notamment, qui exécutent encore aujourd'hui. Bon, nous, ça nous semble, enfin, en tout cas moi, ça me semble absolument aberrant, sidérant. Et l'avortement, on sait qu'il est encore punissable ou qu'il est de nouveau punissable dans certaines démocraties aussi. Dans l'Union européenne, la Pologne et Malte interdisent l'avortement. Malte a la législation la plus dure, on l'oublie toujours. Et on voit bien ce qui s'est passé aux États-Unis. Après que la Cour suprême ait cassé l'arrêt Roe versus Wade, qui en fait régulait, on va dire, la question de l'avortement sur le territoire américain depuis 1973. Bon, bah maintenant aujourd'hui au Texas, une femme qui vit une fausse couche peut être mise en accusation d'avoir avorté. Elle peut se retrouver en prison. En fait, on en est revenu là. Donc, on a oublié, mais je trouve qu'on se regarde un petit peu le nombril et c'est un droit qui n'est absolument pas acquis. Donc, en France, en 74-75, on a estimé qu'on l'avait conquis, mais il faut bien, enfin, c'est la phrase de Simone de Beauvoir, hein, restons vigilants toute notre vie surtout.
Mais c'est d'autant plus important que là, effectivement, vous parlez des États-Unis et là, je lisais hier un article dans Courrier International, je crois, qui raconte que le fait de cette remise en cause de cet arrêt Roe versus Wade a conduit qu'il y a 65 000 grossesses de jeunes femmes qui ont été violées, qui sont dans une détresse absolue puisqu'elles ne peuvent rien faire. Donc soit elles changent d'état, ce qui est compliqué parce que beaucoup d'états sont calés là-dessus, mais ça demande des moyens, ça demande donc de l'argent, d'être logé, de pouvoir se déplacer, de pouvoir contourner les pressions insensées des anti-avortements devant les cliniques. Voilà, ce livre, il rappelle ça aussi, c'est que actuellement, ce qui est arrivé à Marie-Claire, arrive encore à de nombreuses femmes. En tout cas, aux États-Unis, les chiffres sont hallucinants.
Mais aux États-Unis, en Pologne aussi, hein, il y avait eu, ou en Irlande avant qu'ils fassent passer la loi, là, qui a été une grande satisfaction, et enfin, mais il y a eu des cas exemplaires comme ça, de jeunes femmes mineures violées, qui s'étaient retrouvées dans des situations très médiatisées, de procès, de mise en accusation. Je veux dire, s'il faut traverser un océan pour aller aux États-Unis, l'Irlande ou la Pologne, ou Malte, on peut quand même se projeter, enfin c'est pas loin, c'est je sais pas, la Pologne c'est quoi, 2 heures d'avion, même pas, enfin
oui c'est ça, 2 heures, oui,
Voilà, donc vraiment, c'est, il faut bien avoir la conscience que l'avortement légal, c'est un sujet qui crispe encore. Et on le voit bien d'ailleurs avec la question de la constitutionnalisation aujourd'hui, quand le président du Sénat se permet donc de donner son opinion politique en disant que, bon, grosso modo, il n'est pas pour la constitutionnalisation parce que l'avortement n'est pas en danger dans notre pays. Mais donc, il faut attendre de ne plus avoir la possibilité d'avorter, comme aux États-Unis, j'ai envie de dire, pour qu'effectivement, tout d'un coup, on s'en inquiète. Alors que ce sont des enjeux politiciens là, qu'il est en train de jouer. En plus, j'étais particulièrement en colère. Donc oui, rappelons-nous, pour moi c'est une grosse piqûre de rappel cet album, et oui, sur le fait que c'est jamais gagné quoi. Non, c'est vraiment jamais gagné.
L'autre chose qui est passionnant dans cet album, c'est que bon, on connaît tous Gisèle Halimi, enfin normalement on doit tous la connaître, mais ce qui, et je trouve le point le plus intéressant, le plus saillant, le plus émouvant, c'est que vous vous intéressez évidemment beaucoup à cette jeune femme, beaucoup à sa famille, ce qui fait que quand, si on n'est pas convaincu par l'importance de l'accès à l'avortement, quand on a lu l'album, on ne peut être que convaincu, parce que cette jeune femme...
Ça me fait plaisir, ça, merci, parce que c'est un peu le but, vous voyez, derrière le reste, donc ok.
Non, parce qu'il faut rappeler que cette jeune femme, elle peut avorter dans des conditions, comme elle n'a pas d'argent, elle peut risquer sa vie. Il y a aussi tout ça, il y avait énormément de femmes qui mouraient, donc oui. À la fois elles pouvaient risquer la prison, mais elles pouvaient aussi évidemment risquer leur vie. Et ça, dans le portrait que vous faites de cette famille monoparentale, d'ailleurs, parce que le père de la jeune femme n'est plus là, donc la mère élève, c'est 4 enfants.
C'est trois filles seules, ouais.
Toutes seules. Il y a ça aussi, il y a un aspect social dans ce que vous avez raconté. Moi, j'avais complètement, je n'avais pas conscience de ça, en fait, avant de vous lire.
Bien sûr. La question des lois, comment dire, mais ça marche pour l'avortement, ça peut marcher pour d'autres choses, pour ces lois qui sont liées au droit à disposer de son corps. C'est pas parce qu'il y a une loi pour l'avortement qu'on va obliger les gens à avorter. Par contre, ça laisse à chacune la décision et puis à chacune à un moment donné de sa vie. Personnellement, j'ai eu 3 enfants et j'ai aussi vécu un avortement. Et pour moi, dans ma tête, les deux choses n'ont... Alors, je vous le dis dans la même phrase, et pourtant, dans ma tête, les deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le jour où j'ai décidé d'aller avorter, pour moi, il ne s'agissait pas d'un futur bébé ou quoi que ce soit. C'était un événement de ma vie, une grossesse non désirée qui venait d'arriver. Il fallait que je la stoppe, vous voyez. Alors que, franchement, voilà, j'ai eu 3 enfants, ça n'a pas toujours plus été facile de les avoir. Donc, vous voyez, on peut être complètement... l'une et l'autre à la fois sans aucun problème. Et je voudrais revenir sur la question de la lutte des classes, parce que effectivement le fait qu'il y ait une loi permet l'égalité de toutes. On l'a vu, donc on le voit pour l'avortement, j'ai envie de dire on l'a vu pour le mariage pour tous, on le voit pour la PMA pour toutes, et j'aimerais bien qu'on le voit aussi pour l'euthanasie, en fait. Parce qu'encore une fois, quand on a des moyens, on trouve des solutions. Et les solutions, c'est utiliser les lois d'autres pays à l'étranger parce qu'on peut s'y rendre. Ou l'autre solution, payer des gens, des soignants qui contreviennent à la loi contre argent comptant. Et après tout, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je ne juge pas ça, c'est factuel. Avorter, on le voit dans l'album, en 1971, pour Marie-Claire et sa mère, c'est 4500 francs, c'est-à-dire 3 SMIC. Michel Chevalier, qui à mes yeux est l'héroïne de l'album, voilà, moi c'est vraiment dans Michel Chevalier que j'impulse le plus de moi-même, je dirais. Michel Chevalier, c'est une petite employée du métro, ça lui est absolument impossible. Elle paye en plus ce qu'on appelait une faiseuse d'ange, une dame qui aide Marie-Claire à avorter, et ça lui revient à 3000 francs. Mais à l'époque, voilà, c'est 2 mois de son salaire, et elle galère déjà seule avec ses enfants. Donc c'était aussi ça pour moi, de dénoncer cette injustice et cette inégalité que dit Halimi au procès quand elle parle à Claude Servan-Schreiber, par exemple, en disant « Madame, on peut dire que vous êtes une bourgeoise sans vouloir vous insulter. » Et Claude Servan-Schreiber répond « Oui, absolument. Moi, je peux avorter quand je veux, en fait. C'est pas un sujet. »
C'est une histoire de femmes, mais toutes les histoires de femmes sont aussi des histoires d'hommes. Dans le procès, il y a évidemment des hommes qui sont assis à la table des juges. Et là aussi, vous faites il y a un double portrait. Il y a le portrait de ces femmes qui demandent le droit d'avorter. Et de l'autre côté, il y a des juges, notamment un avocat général, pardon, qui lui est absolument dans la caricature. Mais bon, c'est un homme de son époque, mais c'est tout de même une caricature.
Alors,
c'est très violent pour ces jeunes femmes.
Oui, c'est une caricature, mais il y a beaucoup de phrases qui sont extraites des minutes du procès. Donc, oui. le spéculum dans la bouche, c'est, il l'a dit, dans un tribunal, un avocat général demande si on met en 72, demande si on met un spéculum dans la bouche pour avorter. Mais, et là, voilà, on est entre... On s'esclave, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à dire après ça? Ces hommes, et c'est ce que dit Halimi, il y a des hommes là pour parler de ça, de nos utérus, de nos avortements, de nos grossesses, mais ils ne savent même pas où ça se passe, en fait. Ils ne connaissent rien à la biologie des femmes, à comment, je dirais même comment on fait des enfants. C'est à croire qu'on en est là. Et c'est... C'est caricatural. Malheureusement, ce n'est pas si rare que ça. Enfin, je veux dire, bon, moi, je suis militante féministe, hein, je ne m'en cache pas. Des fois, certains hommes, et de bonne volonté plutôt, hein, me disent des choses. Et c'est vrai qu'on se dit, waouh, la biologie... quand on voit, excusez-moi, je vais un peu par la bande, mais quand on voit que ça fait que 5-6 ans que le clitoris est représenté dans les manuels de SVT de lycée. Avant, c'était donc un organe qui n'existait pas. Ça veut dire qu'on avait ôté un des organes du corps féminin. Est-ce qu'on enlève des organes du corps masculin dans des représentations de manuels d'apprentissage aux lycéens et aux lycéennes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça vient de là. À quel point? Et pour moi, tout ça, vous pouvez penser que je pars ailleurs, mais pas du tout, car les corrélations sont gigantesques, en fait.
Non, non, je vous suis très très bien, j'ai pas de soucis. Avant de parler maintenant de votre travail de scénariste, est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'importance de ce jalon dans le combat pour la liberté d'avorter, dans le combat féministe?
Avec le MLAC et les bus du MLAC, hein, c'est la dernière étape avant...
Rappelez-moi ce qu'est le MLAC, que tout le monde le sait.
Le mouvement, si vous voulez, c'est un mouvement féministe qui permettait aux femmes, en fait, ils affrétaient des bus pour soit aller effectivement à l'étranger, en Hollande, hein, ou en Angleterre à ce moment-là, pour aider les femmes à avorter. Donc, il y avait des bus de jeunes femmes comme ça, en début de grossesse, qui allaient avorter dans les pays frontaliers et qui se battaient donc, pour la contraception et l'avortement. Et Bobigny, c'est une étape majeure en termes de justice parce qu'il y a une forme de jurisprudence. Le droit français n'est pas basé sur la jurisprudence à l'inverse du droit anglo-saxon. Néanmoins, des jurisprudences peuvent se mettre en place dans les tribunaux. C'est-à-dire que le juge Casanova, ce jour-là, il décide que le droit dit ceci, et bien lui va trouver un moyen de biaiser pour dire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a toute la question des circonstances atténuantes qui permettent quand même une grande liberté aux juges, aux magistrats, pour donner leur réponse, si vous voulez, par rapport à un fait donné. Donc ça, c'est quand même important. Et ce jour-là, il dit non. En fait, il dit non, effectivement, on ne peut pas donner une amende ou envoyer cette jeune fille en prison, que sais-je, alors qu'elle-même déjà est victime de viol, elle se retrouve quand même sur le banc des accusés, elle est victime de viol, elle est victime de maltraitance médicale, il n'y a pas d'autre mot, elle est victime de la société, et en plus, c'est déjà la triple peine, qu'est-ce qui se passe? Et on est au moment où, effectivement, la société... En tout cas, des mouvements assez forts dans la société disent qu'il n'est plus possible d'accepter ça, que ce soit au Parlement. On voit Michel Rocard, on voit des scientifiques, on voit donc Jacques Monod, mais on voit aussi, pour moi, un des personnages très importants, c'est le professeur Miliez dans cette histoire, qui est donc catholique pratiquant et qui se présente comme tel, qui est médecin catholique pratiquant, qui dit ah, moi, voilà, moralement, je suis contre l'IVG, sauf que je suis médecin, que j'ai vu des femmes et que donc j'ai donné de l'argent plus d'une fois pour qu'elles aillent se faire avorter. Parce que sinon, il sait qu'elles mettent leur vie en danger. Donc, il a quand même prêté serment. C'est un médecin, c'est un soignant. Et donc, ça passe par-dessus ses convictions religieuses. Moi, je trouve ce témoignage d'une grande puissance, hein, vraiment très, très fort. Voilà en quoi ça marque. Ça a aidé, hein, je pense, pour la loi Veil. Ça a aidé tout ça.
Juste, alors, dernière chose avant de parler de votre travail, il faut qu'on parle quand même. Bon, elle n'est pas avec nous, mais parce que je voulais parler de scénario. Paroles. Mais le travail de Carole Morel, qui est exceptionnel sur ce point. Oui. C'est déjà une immense dessinatrice, mais là, je trouve qu'elle est, elle a atteint un niveau d'intelligence, de subtilité, surtout d'amélioration, si on peut dire, du scénario, qui est absolument extraordinaire. On suit évidemment votre écriture, mais son dessin, ses couleurs, notamment tous les portraits qu'elle fait des femmes, sont absolument sublimes, superbes.
On a beaucoup travaillé avec Carole sur le board. Moi, je travaille beaucoup sur le moment du storyboard avec mes dessinateurs, dessinatrices. Donc moi, je découpe tout. Hein. Je suis une scénariste case à case, tout est découpé, voilà. Mais le board, c'est un moment où on construit en fait la colonne vertébrale, l'architecture du futur livre. Et c'est vrai qu'on y a passé beaucoup de temps avec Carole. Peut-être qu'elle n'avait pas cette habitude-là. Mais après, je n'embête plus personne. Moi, une fois que le board est bien, bien calé, si je leur demande, c'est moi hein, qui vais chercher les gens pour travailler avec moi. Voilà, si je leur demande de travailler avec moi, bah, c'est que j'aime leurs dessins, j'aime leurs ambiances. Et là, je sentais qu'il y avait sa très grande sensibilité, puis sa pudeur, sa réserve, qui allait se confronter à moi. Je suis une personne plutôt assez débordante. Et je pense que. Mais j'avais très, très peur de déborder. On parlait. Je rentre un peu dans le sujet, vous voyez, de mon travail de scénariste. Quand j'ai fait l'abolition avec Malo, Gerfrieden, je voulais un album très clinique par rapport à peine de mort. C'était important pour moi. Je me retiens beaucoup hein, dans mes scénarios. Je déborde ailleurs. Mais là, je me suis dit, il y a peut-être la possibilité que ça m'ouvre un peu cette voie dont j'ai besoin, de confiance, de me sentir à l'aise et dont je savais que Carole allait elle-même, avec toute sa pudeur et sa sensibilité, prendre soin. C'est vrai qu'il y a quand même des scènes, moi, qui me touchent particulièrement parce qu'on parle de soi aussi dans les livres. La scène du viol me parle particulièrement. Hein, j'y mets beaucoup de moi. La scène, les avortements clandestins et tout. Enfin, moi, je me suis fait avorter. Voilà. J'ai été victime de violences sexuelles. J'en ai fait état publiquement. Donc, il y avait quand même des choses. Et sur le rapport mère-fille aussi, où je me reconnaissais beaucoup, soit dans l'une, soit dans l'autre. Donc, je naviguais un peu et je savais que Carole allait avoir la pudeur et la délicatesse de prendre soin de tout ça. Donc, j'étais en confiance, donc je me suis laissée aller. Et donc, voilà, je crois que ça a permis une certaine harmonie et qu'il y a une rencontre. Oui, il y a une rencontre, en fait, entre nous.
Comme vous dites, et je n'aurais jamais pensé à dire ça comme ça, c'est que, et effectivement, bon, elle prend soin de vous, de votre travail, mais elle prend vraiment soin des personnages que vous mettez en scène. Elle est cocoon quasiment, quoi.
Oui, c'était important. Alors, pour plusieurs raisons. Alors déjà, ce sont des personnages qui nous sont contemporains. Marie-Claire Chevalier est décédée pendant qu'on était, qu'on faisait l'album. C'est assez compliqué à vivre. Donc, voilà. Donc, déjà avant, il était hors de question qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse encore rajouter à la peine, de la peine à la peine. Et alors là, après, c'est un hommage. On est dans l'hommage, vous voyez. Puis alors, dans l'hommage à chaud, c'est très compliqué. Michel Chevalier, comme je vous disais, pour moi, c'est l'héroïne. Enfin, c'est une mère courage incroyable. Bon, Alimi, voilà, enfin, on a envie d'en prendre soin aussi. Et puis, toutes ces femmes, toute cette question de la sororité, quand on passe dans les couloirs du métro, qu'elles se passent toutes des coups de fil, il y avait tout ce chemin-là à faire un petit peu caché, un petit peu en dehors des hommes. On parlait des hommes tout à l'heure, en dehors de la masculinité. Quand le patron de l'une d'elles dit « Oh, c'est des histoires de bonnes femmes parce qu'elle reçoit un coup de fil à son travail », et qu'elle dit une fois qu'il est passé, mais quel abruti, quoi. Et ça aussi, c'était un temps qui était essentiel pour moi dans cet album, parce que donc, je reviens sur le fait que je suis militante féministe, et moi, c'est des choses que j'ai vécues, et je pense que beaucoup de militants féministes vivent au cours de leur vie sur le fait que des fois, ben, on nous appelle, on nous demande quelque chose, et on le fait, parce que c'est entre femmes, et même si on ne revoit pas les femmes après, pas question d'être amie ou pas, c'est simplement qu'on sait qu'il y a des urgences dans la vie des femmes, et ben on est là en fait, on est là et on le fait. Donc oui, il fallait prendre soin de toutes ces femmes, bien sûr.
Donc vous êtes là et vous êtes évidemment donc dans la bande dessinée, c'est une, comment dire, un relais un peu facile que je fais là, mais donc vous êtes une, comme je disais au début, vous êtes une scénariste très singulière dans le monde de la bande dessinée. Vous travaillez donc sur des bandes dessinées très documentaires, très documentées, même si de temps en temps vous allez sur de la biographie d'Atatürk, la biographie de Talleyrand, oui. Cléopâtre même. Mais oui. Je crois que c'est dans l'album Cléopâtre où vous aviez glissé une scène où Cléopâtre avait ses règles. C'est bien dans Cléopâtre.
Oui. Donc j'avais lu ça. Il y a deux scènes, excusez-moi, vu que vous parlez de Cléopâtre, il y a deux scènes qui, moi, je voulais absolument caser dans. Donc moi, j'ai fait trois premiers tomes hein, sur Cléopâtre chez Delcourt. La scène de l'accouchement en face, en faciale, parce que ça, on le voit jamais. Donc moi, je voulais voir ça, un enfant qui naît comme ça, parce que pourquoi ce serait plus choquant que des scènes de sexe. Et Cléopâtre, effectivement, qui a ses règles, et que j'ai mis aussi dans Fille d'Oedipe, Antigone a ses règles dans Fille d'Oedipe, parce que c'est chez Ses Pieds sous terre, parce que c'est une chose encore extrêmement taboue, alors que j'ai envie de dire, ça concerne quand même toutes les femmes pendant, je ne sais même pas, 30 ans, 35 ans de leur vie, tous les mois. Donc, il faut qu'on arrête de poser une chape de plomb là-dessus, et c'était très important de le faire pour moi, voilà. Ça fait partie de nos vies. Et alors donc, en plus, quand c'est Cléopâtre, voilà, j'ai envie de dire, quelle que soit la femme que l'on soit, bien évidemment qu'on vit tout ça. Donc, excusez-moi, je vous ai interrompu, mais oui.
Non, pas de souci, mais c'est dans le cours de la discussion. C'est, vous avez ça à dire là-dessus. C'est parfait. Moi, c'est une scène que j'avais lue sans forcément m'y arrêter, mais quand j'avais relu effectivement votre interview, je m'étais dit effectivement, c'est des trucs qu'on voit jamais, quoi. Donc voilà. Donc oui, je reviens sur votre travail, mais il y a deux albums qui m'ont marqué. Donc il y a celui sur le procès de Eichmann à Jérusalem, et évidemment Bobigny dont on vient de parler. Vous êtes une militante extrêmement active, extrêmement convaincue, c'est même pas le mot d'ailleurs, de la lutte contre la peine de mort. Vous faites des conférences, vous faites partie de l'association de lutte contre la peine de mort.
Oui.
Comment on rentre dans un album comme ça, et comment on fait passer ce message quand on s'attaque à Eichmann, qui est donc un criminel de guerre, un criminel contre l'humanité? Pourquoi vous avez choisi ce personnage extrême?
Alors, en fait, souvent les albums m'apparaissent. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. C'est-à-dire que moi, je travaille toujours... Je vous l'ai dit au début, la seule question qui m'intéresse dans ma vie, c'est la question de la justice. Mais c'est la justice sociale aussi. Le féminisme fait partie de la justice. Donc, c'est très, très vaste. Hein. Ce n'est pas les procès. Et alors, je rebondis. Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. J'ai fait une intervention scolaire avec des troisièmes il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit, vous faites toujours... Pourquoi il y a toujours des procès dans vos livres? Alors, il faut savoir que je ne m'en étais même pas rendu compte. Et donc, voilà. Et j'ai dit, ben ouais, c'est vrai. Mais en fait, je ne fais pas des livres de procès. C'est juste que le procès, à un moment donné, c'est le théâtre de la justice. Donc, effectivement, je mets ça en scène. Et oui, ben, je suis oui, quasiment tout le temps. Il y a ou une case, ou enfin, il y a toujours un rendu en fait de cet ordre-là. Mais j'avais trouvé ça rigolo de même pas m'en être aperçu moi-même, alors que c'est quand même partout. Donc la justice m'intéresse et des fois je me lève le matin et je pensais faire autre chose et je me mets à faire quelque chose. Alors, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur Bobigny, je vais revenir sur Eichmann après. Sur Bobigny, je crois que c'est à la convergence de tout plein de choses et puis je connaissais bien sûr l'histoire de Marie-Claire et voilà, et je voulais refaire un livre sur le féminisme après deux livres sur la peine de mort. J'avais envie de refaire un livre avec des personnages féminins surtout. Parce que c'est vrai que sinon il y a beaucoup d'hommes et j'avais un peu envie, mais c'est vrai, j'avais envie d'avoir des femmes dans mes livres. Et donc voilà, ça m'est apparu. Alors Eichmann, en fait, se pose la question il y a quelques années. Moi, je fais pas de prosélytisme là-dessus, mais en revanche, je me l'applique comme principe. Je ne suis jamais allée dans un pays qui applique la peine de mort, à part le mien, hein, de 75 à 81. Moi, je suis née en 75, donc pendant 6 ans, j'ai vécu dans un pays où la peine de mort existait. C'est surtout, j'ai vécu dans un pays où il y a eu 3 exécutions de mon vivant. Mais sinon, donc, je ne voyage jamais dans un pays qui a la peine de mort et j'ai refusé, je dirais, des choses importantes en déplacement professionnel dans des pays où il y a la peine de mort. Je m'y refuse absolument. À partir de là, dans ma vie privée, se pose la question de savoir si je vais voyager en Israël. Je savais qu'Israël avait aboli, mais je ne connaissais pas la date. Donc, par intérêt intellectuel, hein, personnel, je vais faire des recherches. Donc, je fais des recherches pendant 3 jours parce que je tombe effectivement sur le fait qu'Israël a aboli pour les droits communs en 1954. Et là, de suite, je me suis dit, mais Eichmann a été exécuté en 62. Donc, que se passe-t-il ? Donc, je pense en première intention qu'il s'agit d'une exécution militaire, vous voyez, qui relève de ça, de la trahison, etc. Parce que souvent, c'est décorrélé. Pas du tout. En fait, il a été pendu. Donc, quand il y a des exécutions militaires, la plupart du temps, c'est par Fire Squad. Enfin, vous voyez, je ne trouve plus mes mots. Merci, on les fusille. Donc c'est pas ça. Et donc là, je m'interroge et je trouve donc cette loi de 1950 qui est rétroactive. Et là, moi, ça me fascine, ça me passionne. Et donc, je fais des recherches pendant 3 jours autour de ça. Et puis, au bout de 3 jours, j'envoie un mail à mon éditeur, à mon directeur de collection, Cédric Hiland, chez Glénat, qui m'appelle un quart d'heure plus tard en me disant la première moitié de ton mail, tu l'enlèves. Par contre, tu me fais quelque chose à partir de la deuxième moitié. Et voilà, et Eichmann, ce livre-là est né de ça. Alors, en plus, c'était à la convergence de 2 luttes chez moi. Donc, je lutte pour l'abolition universelle de la peine de mort et notamment dans le cadre, effectivement, de l'association ECPM, Ensemble contre la peine de mort, qui est la plus grosse association française qui lutte contre la peine de mort en France. Elle a plus de 20 ans, ECPM. Et je suis une militante contre l'antisémitisme depuis très très longtemps aussi. Donc voilà, je me trouve vraiment à la confluence de 2 sujets extrêmement importants pour moi. Et j'ai un bon tiers de l'album sur la Shoah. Donc ça, c'était très très difficile. On en a beaucoup parlé avec Malo, chaque case. Comment on fait sans montrer l'horreur, mais tout en comprenant ce qui se passe. Voilà, ça, c'est des planches dures. Vraiment, ça, c'est des planches difficiles. Je voulais que la parole des victimes soit centrale. Je ne voulais pas que ce soit Eichmann qui soit central, parce que cet homme me répugne dedans. On a le personnage de Jeanne, c'est moi, Jeanne. Voilà, il fallait quelqu'un pour porter ma voix. Il y a 2 personnages de fiction. Voilà comment on arrive à ça. Mais je crois qu'il y avait une logique à ce que j'arrive à cet album, en fait. Il n'a pas été un album facile. C'est pas très bien vendu. Alors, à chaque fois qu'il y a eu que des gens l'ont lu, les critiques ont été dithyrambiques. Mais disons qu'il est sorti après le Covid où tout le monde avait besoin de feel good. Alors, j'ai envie de dire, voilà, quand on sort un livre sur le procès d'Eichmann avec un tiers sur la Shoah, un tiers sur le nationalisme en Israël et un tiers sur effectivement Eichmann en lui-même, c'est pas super, super feel good. J'entends bien. Voilà.
Mais l'autre chose qui m'avait intéressé dans Eichmann, c'est effectivement que vous vous mettez dans l'album, donc à travers un personnage, je veux dire, semi-fictionnel, parce que c'est quand même votre voix. Ça, c'est pas courant dans la bande dessinée, parce que vous êtes aussi dans le Conseil constitutionnel, j'ai vu les quelques proches. Bon, vous faites partie à la fois de vos histoires, enfin, votre vie fait partie de vos histoires. C'est ce que vous disiez sur Bobigny, d'ailleurs.
Oui, complètement, alors, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais en tout cas, moi, je n'écris que pour moi. J'écris pour moi, c'est-à-dire que j'écris sans même penser à un dessinateur ou une dessinatrice. Hein. Je me lève, j'écris, et je propose, parce que voilà, maintenant j'ai une bonne... ça se passe très bien avec la maison Glénat, donc j'envoie sans planche, j'envoie des bouts de projet, on me rappelle, on peut me dire non, hein, et puis des fois on me dit peut-être, et des fois on me dit oui. Et là, voilà, je réfléchis après en termes de récit, et avec qui je me vois travailler sur tel ou tel projet, mais ça aussi, tout d'un coup, ça apparaît. Vous parliez du Conseil constitutionnel. Alors, en fait, je venais de signer chez Glénat aussi un gros bouquin sur lequel Gallier, donc je peux commencer à en parler, sur l'histoire de la justice, en fait, on fait toutes les deux. Et là-dessus arrive le Conseil constitutionnel, mais j'appelle Gallier, quoi. Il est évident que c'est avec elle que je veux le faire. Il est évident que cette autrice qui est ultra ludique va permettre de porter tout ce didactisme, enfin j'ai envie de dire Conseil constitutionnel, a priori c'est pas sexy, donc comment on fait pour rendre ça sympa? Et ben ouais, on se met en scène toutes les deux et on raconte nos aventures au Conseil constitutionnel et en forçant à peine le trait. Dans Bobigny, voilà, je navigue entre Michel et Marie-Claire. Dans Eichmann, bah, je trouve ce personnage que j'appelle Jeanne Hamelot, qui était donc le nom de ma grand-mère paternelle. Hein, voilà, et puis bah, je suis à fond dedans et au moins ça me permet de parler. Dans l'abolition aussi, il y a beaucoup de choses sur le militantisme de Badinter. Il y a mes phrases à moi par moment, évidemment. Bon, à chaque fois, dans Fille d'Oedipe, moi je dis souvent, si on veut savoir qui je suis, il faut lire Fille d'Oedipe, quoi. C'est transparent. Mais je ne sais pas comment on peut faire autrement, en fait. C'est tout?
Bah, oui, chacun a sa méthode. Ou... Voilà, alors... en revoyant vos différents albums, ça m'a évidemment frappé parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et est-ce que vous allez aller un jour vers quelque chose de plus romanesque, c'est-à-dire une histoire totalement inventée?
Alors ça, je ne sais pas. Je me rends compte que quand même de plus en plus, je me lâche un tout petit peu. Bobigny, je l'ai plus fictionné encore que L'Enfer est vide. L'Enfer est vide, j'ai plus fictionné que L'Abolition, etc. J'ai re-signé un album avec Carole. Alors, je dis pas quoi pour l'instant parce qu'elle a du travail entre-temps. Mais encore avec Carole, on va travailler autour des droits des femmes. C'est ce qui m'intéresse voilà, de creuser avec elle. Je pense qu'il y aura encore plus de moi dedans. Donc, quand on met plus de soi-même, ben on fictionne encore plus. Est-ce qu'un jour, je vais complètement lâcher la trame historique? Mais je ne sais pas. On m'a parlé de Fabien Nury il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait extrêmement plaisir, d'ailleurs. Parce qu'il était une fois en France, pour moi, est un modèle. C'est exemplaire, son travail dedans. Et est-ce que Fabien Nury... qu'est-ce qu'il met de lui-même et qu'est-ce que j'aimerais bien lui parler un jour. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Non, mais c'est vrai. Voilà, on est entre l'histoire et la fiction. Ben, selon les projets, c'est compliqué à dire ce que je vais faire dans 3 ans ou dans 5 ans. Vous voyez, voilà.
Oui, je vois très très bien. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme Fabien Nury, mais ce que je peux dire aux gens qui m'écoutent, c'est que dans Bobigny, il y a une qualité de dialogue qui est assez exceptionnelle.
Je vous remercie beaucoup.
Tout est très... Là, c'est Nury, c'est le meilleur dialoguiste, à mon avis, de la bande dessinée française. Mais dans Bobigny, voilà, tous les dialogues sont justes, le lecteur n'est jamais à côté, jamais perdu. Voilà, c'est un vrai bonheur de lecture.
Bah, merci. C'est un gros travail, ça, pour moi, pour pouvoir... je fais beaucoup d'allers-retours pour pouvoir être juste dans le ton. Des fois, je suis un petit peu dissonante. Alors, des fois, je m'en rends compte, des fois, je m'en rends moins compte. Donc, j'ai des suggestions, je veux dire. Je ne fais pas relire. Il y a des scénaristes qui font lire aux collègues et tout. Moi, pas du tout. Je ne veux pas. En revanche, la personne qui travaille avec moi, dessinateur, dessinatrice et mon directeur de collection, voilà, je parlais de la confiance que j'ai en lui, sont mes lecteurs et on me le dit. On me dit là, ça accroche un peu, là, c'est moins fluide. Donc, je réfléchis. Ouais, mais c'est un gros, gros travail. Hein. Je suis une très grosse bosseuse, en fait. C'est pas. Alors, le talent, ça existe, hein, je ne dirais pas ça, mais voilà, il y a du labeur derrière. Ça me prend des fois des années pour arriver à quelque chose qui me convienne dans la qualité, enfin, dans celle que j'estime être à ce moment-là. Vous voyez, c'est plus ça, voilà, pour déjà, moi, en être satisfaite.
Mais Marie, le temps passe et on a déjà carrément dépassé l'émission. Et c'est pas grave, comme on est à la radio, on va pouvoir mettre tout. Ça va être
super. Alors c'est super.
Assez merveilleux. Je rappelle juste donc Bobigny 1972, c'est publié par les éditions Glénat. Vous êtes Marie Bardiot-Vaillante au scénario, Carole Morel au dessin. Ça fait 190 pages et c'est au prix de 25 €, c'est donné quasiment. Surtout, c'est un album qu'il faut offrir à tout le monde. Et je dirais aussi à plein de jeunes filles, voilà, qui vont découvrir une partie de l'histoire de leur mère, de leur grand-mère et de
important.
Qui les ont précédées. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain.
Merci, bien sûr, avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.